Sud Radio, le débat de la semaine.
Il y a un an commençait le premier confinement, l'économie étant mise à l'arrêt entre fermeture d'usines et mise en place massive du télétravail dans les services. Une des mesures du « quoi qu'il en coûte » pour citer le président de la République. Et le coût de connu est déjà énorme avec une baisse du PIB de 8,3% en 2020 et une dette publique aux alentours de 117,5% du PIB, toujours fin 2020. Sans compter les dommages collatéraux à venir, quand les mesures de chômage partiel vont prendre fin et qu'on comptera les survivants dans les secteurs arrêtés depuis des mois, comme la restauration, les salles de sport, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, les cinémas, théâtres, discothèques, etc. Les factures vont tomber et on connaîtra alors vraiment le prix du quoi qu'il en coûte. Un an après le premier confinement, l'économie française pourra-t-elle se relever? C'est le débat du dimanche et pour le moment, vous êtes 77,6% à dire non sur Twitter. Avec nous pour en débattre, Sébastien Tienlet, économiste, entrepreneur et président du parti 4 piliers. Ses dernières notes pour l'Institut Thomas More en mars 2021. Face au mur des faillites des entreprises, comment mieux protéger les salariés? En avril, ce sera benchmarking des régimes d'insolvabilité. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Et Bernard Monod, député européen de 2014 à 2019, économiste politique, financier d'une institution publique française, essayiste, auteur du livre « L'Eurovision pour les peuples, le patriotisme ou la banqueroute », c'est publié chez Muller Éditions. Bonjour.
Bonjour.
On va commencer, tiens, avec vous, on va faire par ordre alphabétique, Sébastien Lay. Auriez-vous imaginé un jour, en cours d'économie, que le monde entier ou presque serait mis à l'arrêt?
Non, c'est un cas d'école. On a vécu des crises financières. Rappelez-vous, moi, j'ai vécu la crise financière. À l'époque, j'étais aux États-Unis, au cœur du maelstrom, je dirais, en 2008. Le seul point de comparaison que nous avions, c'était la grande crise de 1929. On a réussi à l'éviter, hein, puisque ce qu'on a connu en 2008-2009, c'est une sorte d'intermédiaire entre la grande crise de 2029 et les récessions habituelles que nous connaissions. Mettre comme cela en congélation l'économie pendant quelques mois, et puis on va en parler ensuite avec les conséquences de long terme, c'est quelque chose de complètement nouveau. Mais je remarque aussi qu'en termes de, là si on reparle de l'économie et de la science économique, en termes d'idées économiques, peut-être pas en France, on est peut-être arrière sur le sujet, mais par exemple aux États-Unis ou dans d'autres pays européens, on a eu un véritable ajournamento des politiques économiques, c'est-à-dire qu'on a abandonné tout ce qui était le cadre je dirais, de pensée du technocrate mondialiste néolibéral au cours des 30 dernières années. Tout cela a été rapidement jeté aux orties. Et en fait, on va avoir, on y viendra assez rapidement, un monde post-Covid très différent en termes d'idées économiques et d'appréhension de ce qu'est une crise et de ce qu'un État peut faire face à une crise.
Bernard Monod, quand vous preniez des cours d'éco il y a quelques années, vous auriez imaginé le monde comme ça à l'arrêt?
Non, jamais. Mais moi, je fais une grande différence entre la théorie et la pratique. Et la pratique m'a prouvé que ce qu'on nous a enseigné ne tient pas la route et que malheureusement, tout le système, depuis 50 ans, survit grâce au surendettement à la fois public et privé. Aujourd'hui, l'endettement public pose un vrai problème. C'est ce qui fait effectivement que, je suis d'accord tout à fait avec M. Lay, à savoir que le modèle ultralibéral et mondialiste est en train d'arriver à son terme. Nous allons passer d'un ancien système à un nouveau système à partir des années 2021, 2022 et à venir. Et donc, nous allons probablement rentrer peut-être même dans un système chinois, c'est-à-dire un mélange de capitalisme mêlé donc avec du communisme. Et c'est là que l'économie rejoint le politique.
Alors, je vais vous poser une question à tous les deux. J'en avais parlé dans mon intro, vous en avez parlé comme ça, là, à l'instant, Bernard Monod, mais je vais poser la question à Sébastien Lay et vous allez répondre. La dette, 117,5% du PIB fin 2020 pour la France, hors le hors-bilan, et c'est-à-dire qu'on est pratiquement au double. Ça fera 20 ans en décembre, l'Argentine faisait faillite. Sébastien Lay, est-ce qu'on peut imaginer, quand toutes les factures du quoi qu'il en coûte vont tomber, un scénario à l'Argentine, en France, comme il y a 20 ans, de l'autre côté de l'Atlantique?
Alors, un État souverain qui dispose de sa monnaie souveraine, techniquement, ne fait pas faillite. Les États qui font faillite, ce sont ceux qui, comme l'Argentine, ont une monnaie qui est accrochée à une autre devise, en l'occurrence, c'était le dollar, et donc qui ne contrôlent pas leur destinée. La France est dans une situation intermédiaire, puisque nous avons l'euro, et c'est une forme de souveraineté partagée, donc tout va dépendre, encore une fois, de l'attitude de la Banque Centrale Européenne, de la vision de nos partenaires et de nos propres discussions avec nos partenaires, même si, à mon avis, il est illusoire, comme le fait Emmanuel Macron, de tout attendre de l'Allemagne. Aujourd'hui, il y a un front différent. Il y a des pays européens qui ont une vision de ce que doit être la construction européenne, d'une alliance entre, je dirais, des nations européennes, donc une confédération d'États-nations et non pas un État fédéral, qui sont prêts à rejoindre une autre vision. Donc, non, la faillite de la France, je l'attends pas. Je voulais signaler deux choses. D'abord, la question de la dette, même si on en parle beaucoup, on en parle moins dans d'autres pays, tout simplement parce que sur le court terme, les taux d'intérêt sont tellement bas et sont appelés à rester bas, que le sujet n'est pas imminent. C'est un sujet à un horizon de 10 ans. Et tout va dépendre, on va en parler, hein, parce qu'il va falloir définir ce qu'on entend en redressement de l'économie, des perspectives de croissance pour la France et pour l'Europe au cours des prochaines années. Pour l'instant, je suis assez pessimiste et on va en parler, mais tout dépend à quel moment on va réussir à retrouver le niveau de notre économie fin 2019.
Bernard Monod, un scénario à l'Argentine pour la France, ça vous paraît imaginable ?
À terme, oui, mais il n'y aura pas que la France, ce sera tout l'Occident. Le Liban, effectivement, l'Argentine sont les pays précurseurs du nouveau système qui va nous attendre, où en fait l'économie mondiale est malade de sa monnaie. C'est ça que le fond du problème, au-delà des dettes, qui est effectivement un problème et qu'on pourrait résoudre, mais qui ne l'est pas à l'heure actuelle. Eh bien, c'est la monnaie qui est touchée. On le voit avec le dollar, l'euro, la livre sterling, enfin toutes les monnaies, les devises papier. Et si vous voulez, avec un probable retour de l'inflation qui commence à poindre avec des tensions inflationnistes aux États-Unis, qui commence à entraîner une remontée des taux. Et je rejoins effectivement Sébastien Lay sur son analyse de la crise des taux, la courbe des taux qui risque de se tendre avec le temps et probablement au départ des États-Unis avec une crise bancaire qui pourrait s'enchaîner. Donc c'est ce qu'on risque de voir poindre dans les années à venir. Et ça a déjà commencé, l'effondrement a déjà commencé avec le système bancaire américain depuis septembre 2019. Ça se voit pas du grand public, mais effectivement, les banques d'Occident sont malades. Et derrière tout ça, je vous l'ai dit, c'est la monnaie au sens large qui est malade.
Alors justement, Sébastien Lay, vous avez entendu Bernard Monod qui dit que pour lui, une hausse des taux pourrait arriver ou va arriver. Beaucoup de politiques, mais les politiques disent-ils toujours la vérité ? Ça, c'est un autre sujet. Disent qu'en cas de hausse des taux, la dette ne deviendrait plus soutenable pour la France et pour d'autres pays, par exemple l'Italie. Est-ce que vous croyez à cette thèse ?
Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que les banques centrales ne vont pas de sitôt augmenter elles-mêmes les taux. Hein. Les taux décidés par la Fed n'ont pas augmenté aux États-Unis. La BCE ne va pas les augmenter avant au moins 2023-2024. Le sujet, c'est que ces jours-ci aux États-Unis, ce qui augmente, ce sont les taux qu'on constate sur les marchés. Parce qu'il faut bien comprendre pour vos auditeurs que ce sont aussi les investisseurs, en fonction de leur achat de bons du Trésor, qui définissent le taux d'intérêt pratique. Donc, c'est pas le taux à l'émission, c'est le taux qu'on paye pour détenir la dette d'un État. Et là, aux États-Unis, oui, ça s'est envolé ces derniers jours à 1,75%. Mais pour l'instant, je suis pas extrêmement inquiet, moi, contrairement à Monsieur Monod, parce que aux États-Unis, cette envolée un peu plus rapide que ce que voulait la Fed, c'est le signe aussi d'une croissance qui repart un peu plus vite que prévu. Donc, vous avez des anticipations de croissance et des anticipations d'inflation, et ça, c'est beaucoup plus dangereux, qui jouent. Donc, finalement, c'est presque un bon signe aujourd'hui, ce décalage de taux d'intérêt qui est entre les États-Unis et l'Europe. C'est le décalage entre une zone économique qui repart très rapidement avec de la croissance et de l'emploi et une autre zone qui paraît engluée dans une forme de marasme économique encore pour un certain nombre de mois.
Bernard Monod, le retour de l'inflation, ce serait catastrophique ? Alors, ça dépend, il y a inflation et inflation. Enfin, je ne vais pas parler de l'inflation du Zimbabwe il y a quelques années, mais une inflation allée à 3-4%.
Oui, une inflation à 3-4%, c'est-à-dire modérée et plutôt même bénéfique à court, moyen et long terme. Le problème, c'est que ça fait 30 ans qu'on a connu une désinflation très importante et aujourd'hui, on en paye le prix. Donc, effectivement, un petit peu d'inflation serait bonne au début. Maintenant, s'il y a une perte de contrôle par les banques centrales des taux nominaux, c'est-à-dire obligataires, forcément, ils vont remonter et ce sera extrêmement lié à l'inflation. Le baromètre pour lequel il faut être très attentif, c'est la valeur de l'or, le cours de l'or. À venir, qui sera le canari dans la mine qui va annoncer le coup de grisou.
Alors, il y a aussi la question des matières premières qu'il faudra surveiller, pétrole et matières premières alimentaires. Ça peut engendrer des révolutions. C'est ce qu'on avait connu il y a quelques années avec les printemps arabes, par exemple.
Alors, j'ai une question à vous poser. On a parlé d'inflation. Mais quand vont rouvrir des sociétés qui ont pris des PGE, etc., et qui ne vont pas pouvoir payer et qui vont déposer le bilan, il y en a déjà, on a entendu une patronne de salle de yoga, Élodie Garamond, il y a à peu près une heure. Est-ce qu'on risque pas, dans ces cas-là, d'avoir l'antithèse, mais avec la déflation qui est pire que l'inflation, sauf peut-être l'hyperinflation, c'est-à-dire où pour arriver à vendre, à redémarrer un restaurant, etc., on va casser les prix pour arriver à faire venir un peu le client. Sébastien Lay.
Alors moi, c'est, pour ceux qui me lisent, c'est ma thèse depuis de nombreuses années. Il y a des tensions inflationnistes dues à toute cette quantité de monnaie qui est imprimée. Il y a la question des matières premières, etc. Mais je suis convaincu que la tendance de fond, en tout cas pour l'Europe et pour la France, c'est le vrai risque, c'est le monstre déflationniste. Et le monstre déflationniste, il se manifeste par le chômage, par un pouvoir d'achat qui est anémie en France. Et effectivement, s'il y a une destruction de notre tissu entrepreneurial, je crois que c'est Euler Hermès qui disait peut-être 60 000 faillites au cours des prochains mois. C'est par exemple 20% du tissu des restaurants ou des petits commerces. Oui, ça peut avoir un impact. Alors, il va falloir voir aussi, dans cette tension entre l'inflation et la déflation, ce que font les ménages français. Là, le gouvernement, vous avez vu cette prévision de croissance à 6%, qui paraît assez optimiste. L'idée, c'est que les gens vont se remettre à consommer énormément en sortie de crise. Moi, je n'y crois pas. Hein. Je crois que les Français, ils ont une épargne réelle, et cette épargne, c'est une épargne de précaution face au chômage, face aux difficultés économiques, et qu'on ne va pas voir là, au troisième trimestre de cette année, un rebond aussi fort, par exemple, qu'au troisième trimestre de l'an dernier. Donc, oui, ça va jouer sur l'hôtellerie, le tourisme, il va y avoir un petit effet de rattrapage. En termes de consommation quotidienne, je ne vois pas les Français continuent à consommer, notamment en ligne, se livrer à un grand déballage, à une frénésie d'achat, comme ça, en sortie de crise sanitaire.
Bernard Monod, une crise déflationniste, ça pourrait arriver ou pas, quand on va arrêter les perfusions et les respirateurs qu'il y a sur des millions d'entreprises?
C'est une question de temps, si vous voulez. À court terme, effectivement, il y a déjà eu un ralentissement de l'économie qui peut entraîner effectivement une déflation. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé les mois et les années précédentes. Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir une rupture dans les taux. Il y aura une remontée des taux avec anticipation de la remontée de l'inflation. Et après, à ce moment-là, les banques centrales risquent de perdre le contrôle. Et je pense qu'on n'aura même pas le temps de rentrer en déflation et qu'on aura une crise monétaire de l'Occident extrêmement grave. Et ce sera la rupture, moi, ce que j'appelle, et avec les conséquences de banqueroute sur les États occidentaux. Je mets à part le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, qui ont, eux, déjà anticipé depuis 10 ou 12 ans, depuis la dernière crise de 2008, des réserves d'or très importantes, dont on parle très, très peu dans les médias et dans le grand public. Mais il faut être conscient que lorsqu'on a des réserves d'or, on est à l'abri de toutes les grandes crises pour lesquelles on risque d'être confronté.
Allez, il nous reste une minute. En 30 secondes chacun, c'est la question du débat. Un an après le premier confinement, l'économie française pourra-t-elle se relever? En 30 secondes, Sébastien Lay.
Alors, l'économie française ne retrouvera pas son niveau de fin 2019, parce que c'est ça la définition du redressement. Au deuxième trimestre 2022, comme attendu par le gouvernement, nous n'aurons pas une croissance de 6%, on sera entre 3 et 4%, et le rattrapage va être étalé sur de longues années.
Et en 30 secondes, Bernard Monod, un an après le premier confinement, l'économie française pourra-t-elle se relever?
À très très court terme, oui, il va y avoir un rebond technique compte tenu de la cascade de plans de relance qui ont été faits, aussi bien français qu'européens. Mais à terme, effectivement, je suis aussi prudent dans les prévisions. Ça devrait se terminer à 3,5 probablement en 2021-2022 et après un décrochage.
Merci beaucoup Sébastien Lay, économiste. Merci, et Bernard Monod, économiste également. Merci à tous les deux. Verdict sur Twitter, vous êtes 77%. 77,6 à penser que l'économie française ne pourra pas se relever un an après le premier confinement. Dans quelques instants, Osez Investir, Thomas Binet reçoit Jean-Marc Colli, président de l'ASPIM, et Robert Laffont, patron de presse. Restez bien avec nous sur Sud Radio.